de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La Colombie ouvre le plus long tunnel d'Amérique du Sud ». Le Soudan annonce 3 mois d'inondation d'urgence. L'Union européenne exige un possible veto sur les règles et lois du Royaume-Uni post-Brexit. La Nouvelle-Zélande est prête à renforcer l'industrie de l'énergie géothermique en Indonésie. L'Indonésie est déterminée à dépasser le Vietnam dans la production de café, a déclaré ministre de la Recherche et de la Technologie. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. La Colombie ouvre le plus long tunnel d'Amérique du Sud. Finalement, on a officiellement ouvert le tunnel de la Linea après une période de construction de plus de 10 ans. Le président colombien, Iván Duque, a déclaré lors d'une cérémonie d'ouverture samedi dernier que la construction du tunnel de 8,65 km visait à réduire le temps et les coûts dont on a besoin pour transporter des marchandises de la ville portuaire de Buenaventura au centre de la Colombie. Ce tunnel pénètre dans les Andes dans l'ouest de la Colombie. Ce projet coûte plus de 1 billion de pesos ou environ 270 millions de dollars américains. Le Conseil soudanais de sécurité et de défense a déclaré l'état d'urgence nationale de 3 mois en raison des inondations qui ont tué 99 personnes cette année et a désigné le Soudan comme zone de catastrophe naturelle selon l'agence de presse officielle Suna samedi dernier. Le ministre soudanais du Travail et du Développement social a déclaré qu'en plus des morts, les inondations de cette année avaient blessé 86 personnes, causé des dégâts à plus d'un demi-million de personnes et provoqué l'effondrement complet et partiel de plus de 100 000 maisons. Le ministre Lena El Sheikh a ajouté que les niveaux d'inondation et de pluie pour cette année ont dépassé les records établis en 1986 et 1988, avec des attentats pour les indicateurs de continuer à augmenter. L'Union européenne demande un éventuel veto sur les lois et les règlements britanniques post-Brexit, a rapporté samedi le journal The Times. Le quotidien a cité que le négociateur en chef de l'Union européenne, Michael Barnier, qui a insisté sur le fait que Londres doit accepter de ne mettre en œuvre aucune modification de la loi britannique, surtout celui qui pourrait fausser les échanges avec le bloc de l'Union européenne sans consulter Bruxelles. Le collègue de Barnier en Angleterre, David Frost, aurait rejeté cette approche. The Times a rapporté que Barnier s'était déjà rendu à Londres pour dire à Frost que la Grande-Bretagne devait continuer à aider le pays. Sinon, il n'y aura pas d'accord Brexit. On a rapporté que la Grande-Bretagne avait de plus en plus de chances de quitter l'Union européenne sans accord commercial. De même, on a rapporté que Londres estime avoir une autonomie totale sur ses plans d'aide d'État. La Nouvelle-Zélande a déclaré qu'elle était prête à participer au renforcement de l'industrie géothermique en Indonésie. L'un d'eux se manifeste dans le plan d'action pour le partenariat global Indonésie-Nouvelle-Zélande de 2020 à 2024. La déclaration a été faite par le Bureau néo-zélandais du commerce et des affaires dans une déclaration écrite reçue à Jakarta samedi dernier. Selon le Bureau néo-zélandais du commerce et des affaires, le plan d'action contient un accord visant à rechanger la tension sur les priorités de la coopération bilatérale. Cela comprend un accent sur les énergies renouvelables et l'exploration de nouvelles opportunités. Le Bureau néo-zélandais du commerce et des affaires est une agence gouvernementale dont le travail consiste à aider les entreprises néo-zélandaises à mettre en relation des investisseurs dans divers pays. En Indonésie, le Bureau néo-zélandais du commerce et des affaires établit des partenariats avec diverses parties prenantes et fournit diverses informations et réseaux liés à l'investissement. Non seulement les plans d'action, le gouvernement et les acteurs commerciaux en Nouvelle-Zélande participent également activement à divers forums et réunions d'affaires liées à l'industrie géothermique en Indonésie. L'une d'elles est la Digital Indonesia International Geothermal Convention 2020 qui se tiendra virtuellement le 8 septembre 2020. Le ministre de la Recherche et de la Technologie, ou chef de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation, Bambang Brojonegoro, a déclaré que l'Indonésie était déterminée à augmenter sa productivité de café pour retrouver sa position de numéro 2 de producteur de café au monde, désormais occupée par le Vietnam. Il l'a exprimé lorsqu'il était le principal orateur d'un webinaire sur le thème « L'Indonésie dans la carte mondiale du café, opportunités et perspectives ». Ce webinaire a été organisé par le Centre d'études sur le Centre de la gastrodiplomatie de recherche en sciences sociales et humaines de l'Université de Jember, Java de l'Est, samedi dernier. Il a ajouté que l'augmentation de la production de café est l'un des programmes économiques nationaux, étant donné que 96% des produits de café indonésiens proviennent des petites plantations de café. Selon lui, si la productivité du café augmente, dont la communauté en ressentira l'impact positif des agriculteurs aux acteurs commerciaux du secteur du café. On espère que l'impact se produira car actuellement la production moyenne de café par an en Indonésie atteint 600 000 tonnes sur 1,3 million d'hectares de terres de plantation de café. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le gouvernement indonésien a répondu à l'interdiction pour les citoyens indonésiens d'entrer en Malaisie ». Le gouvernement malaise imposera des interdictions d'entrée aux citoyens indonésiens, indiens et philippines. Cette interdiction prendra effet à partir du 7 septembre. On a appliqué cette interdiction pour empêcher l'importation de cas de COVID-19 en Malaisie. La politique a été annoncée par le ministre de la Défense Ismail Sabri Yaakob aux journalistes lors d'une conférence de presse télévisée mardi dernier. Il a déclaré que le gouvernement malaisien surveillerait également la situation dans d'autres pays et n'excluait pas la même interdiction pour d'autres pays connaissant un pic dans le cas de COVID-19. Le gouvernement indonésien a répondu au plan visant à interdire aux citoyens indonésiens d'entrer en Malaisie. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Tengku Faizasha, a déclaré que son parti s'était entretenu mercredi dernier avec l'ambassadeur de Malaisie en Indonésie, Zainal Abidin Bakar, pour clarifier le discours. Après la réunion, Tengku Faizasha a déclaré que l'ambassadeur Zainal Abidin Bakar a déclaré qu'il communiquerait les résultats de pourparlers au gouvernement malaisien. Il a également dit au gouvernement indonésien que la politique était temporaire et qu'on la réexaminerait chaque semaine. Pendant ce temps, Tengku Faizasha a déclaré que le gouvernement avait demandé aux Indonésiens de ne pas aller à l'étranger, notamment en envisageant des conseils de voyage pour la Malaisie. L'Indonésie exhorte encore à nos citoyens à ne pas voyager à l'étranger, sauf pour des besoins très urgents et inévitables. Mais vraisemblablement, ce développement en Malaisie nous fournirons une sorte de notification pour le mécanisme de conseil aux voyageurs appartenant au ministère des Affaires étrangères. Tengku Faizasha a déclaré que pour surmonter la pandémie de COVID-19, on avait besoin d'une bonne coopération et d'une bonne communication entre les pays. Selon lui, l'Indonésie et la Malaisie sont les fondateurs et les pays membres de l'ASEAN. Il doit donc incarner l'esprit de l'ASEAN dans la coopération pour la gestion de COVID-19. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 6 septembre. On commence par le 6 septembre 1968, l'indépendance de Swaziland. Le Swaziland est un petit pays d'Afrique australe, est un pays sans littoral. Il est bordé par le Mozambique au nord-est et par l'Afrique du Sud au nord, à l'ouest et au sud. Dans le passé, le Swaziland était un protectorat britannique où la Grande-Bretagne contrôlait la région après avoir remporté la guerre anglo-boer en 1903. À cette époque, Transvaal était le nom du petit pays. Le 6 septembre 1968, la Grande-Bretagne a donné l'indépendance au Swaziland avant qu'il puisse devenir un royaume souverain. Le 6 septembre 1996, on trouvait l'oiseau de Mandar Talaud. On ne peut trouver l'oiseau Mandar Talaud que sur l'île de Karakelang, dans la région des îles Talaud, à Sulawesi du Nord, qui est la région la plus septentrionale de l'Indonésie, qui borde directement les Philippines. On trouvait l'oiseau Mandar Talaud le 6 septembre 1996. Après une observation et des recherches minutieuses, l'oiseau Mandar Talaud s'est avéré être une nouvelle espèce d'oiseau pour le monde de la science. Dans un journal scientifique sur les oiseaux Fortel, on a diffusé la découverte à travers le monde et on a donné à l'oiseau le nom scientifique de Gymnocrex talaudensis. Le 6 septembre 2007, l'opération de plantation des fruits. L'opération de plantation des fruits est un raid aérien israélien contre un centre de recherche agricole à Deir ez-Zor, dans le nord de la Syrie, après minuit le 6 septembre 2007. Selon les nouvelles, cette attaque a été menée par le 69e escadron de l'armée de l'air israélienne, qui se compose de F-15I, F-16 et un avion Elite, un total de 8 avions. Les chasseurs étaient équipés de missiles AGM-65 Maverick, de bombes de 250 kg et de réservoirs d'huile externe. CNN a initialement signalé que cette attaque visait des militants de Hezbollah. Le 13 septembre, le Washington Post a déclaré que le service de renseignement américain et israélien avait obtenu des informations sur les installations nucléaires construites en Syrie avec l'aide de la Corée du Nord. On prétend que la frappe ciblée était une installation capable de fabriquer des armes non conventionnelles. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku. Karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku. Hidup bersamamu, berdua kita lewati. Meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie. Bonsoir à tous. Mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est « Le gouvernement encourage l'application de la science du sport ». Le ministère de la Jeunesse et des Sports, avant la commémoration de la Journée nationale du sport, qui tombe le 9 septembre, encourage les éléments du sport indonésien à maximiser l'application de la science du sport dans le pays. L'un des efforts du gouvernement consiste à organiser mardi une réunion intitulée « Atelier sur la science et la technologie du sport à Bekasi, Java de l'Ouest » et d'impliquer les militants sportifs nationaux et les domaines liés aux activités sportives. Le personnel spécial du ministre du Développement et de la Réussite du Sport, Mahfudin Nigara, a souligné lors de l'événement l'importance de la science du sport pour le succès de réalisations sportives en Indonésie. Il a dit que tous les programmes d'entraînement pour les athlètes en Indonésie doivent avoir une base solide en science du sport. Nigara, dans son communiqué officiel, a déclaré « Tout le monde doit utiliser des données, y compris la science du sport, afin que les réalisations puissent être mesurées et planifiées correctement. On parle plusieurs questions dans cette activité, comme l'utilisation de la technologie biomécanique pour analyser la capacité de mouvement, l'étude de la médecine du sport pour accélérer les capacités physiologiques et l'utilisation d'instruments de tests appropriés pour les athlètes. De plus, il doit appliquer la science du sport pour développer et améliorer les performances sportives, car la science du sport est capable de prédire et de comparer les résultats des tests effectués. Pendant ce temps, en ce qui concerne les sciences du sport, le professeur de l'Université d'État de Surabaya, professeur Dr. Hari Setijono, a déclaré qu'à l'heure actuelle, l'existence de la science du sport est très importante. Pour cela, les parties prenantes ne doivent pas être inversées dans la réalisation d'activités sportives, alors ne testez pas d'abord, puis préparez un programme. Jusqu'à présent, on fait d'abord un programme, puis les tests, donc ce n'est pas juste. De plus, la science du sport est en mesure de surveiller les résultats de l'entraînement qui a été effectué. On peut également utiliser la science du sport en tant que décideur pour identifier les talents et la fixation des objectifs et pour la motivation. La recherche est également indispensable pour le développement de la science du sport et la collaboration de diverses institutions de recherche afin que dès que possible, on puisse l'appliquer de manière appropriée. Pendant ce temps, Octavianus Matakupan de l'Université d'État de Jakarta a expliqué qu'en fait, on parlait de science du sport depuis 1980, même si cela avait fait écho en 1990, mais que c'était encore un problème sporadique. Les résultats des Jeux asiatiques et des Jeux de l'Asie du Sud-Est précédents étaient bons parce qu'il y avait plusieurs sports qui appliquaient continuellement la science du sport. Par cette activité, le gouvernement espère que la science du sport pourra être familière et plus facile à appliquer. Le ministère de la Jeunesse et des Sports encourage également l'augmentation des études dans le domaine du sport et il peut les diffuser à la communauté sportive en Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la beauté de la baie de Saleh sur l'île de Sumbawa. Administrativement, la baie de Saleh est entourée dans trois quartiers, à savoir le quartier Sumbawa, Dompu et Bima. C'est parce que la baie de Saleh est une zone d'eau assez étendue. Pour atteindre la région de la baie Saleh, vous pouvez prendre le transport terrestre vers la zone côtière dans l'un de ces quartiers ou prendre directement le transport par eau sous forme de bateau ou d'autres types de transport. Chers auditeurs, si vous passez la route terrestre et commencez votre voyage depuis le port de Pototano qui relie l'île de Lombok et l'île de Sumbawa, le voyage est assez long. Vous pouvez prendre les transports en commun comme les bus ou d'autres moyens de transport qui peuvent vous emmener dans l'un des trois quartiers. Si votre itinéraire n'atteint pas la région de la baie de Saleh, vous pouvez le relier en moto-taxi. Passer la voie maritime, le voyage prendra bien sûr encore plus de temps. Ceux qui passent cette route maritime sont généralement des touristes qui visitent diverses plages et îles telles que Bali et Lombok. Si vous allez par mer, le coût sera plus cher. Pour cela, si vous souhaitez simplement profiter de la vue panoramique sur la baie de Saleh, vous devez simplement prendre la route terrestre. Pour vous promener dans l'espace aquatique, ou trouver des spots de plongée, vous pouvez louer un bateau sur la plage. En raison de son incroyable biodiversité, de nombreux touristes y viennent et y font généralement des activités de plongée. En plus de cela, la plongée en apnée peut également être le bon choix si vous ne plongez pas ici. La baie Saleh a également été nommée Aquarium Mondial par l'Institut Indonésien des Sciences. Différents types de poissons, comme du merou, du maquereau, du vivano, des crustacés et même des baleines, vous pouvez trouver dans cette baie de Saleh. En plus de cela, une autre chose intéressante que vous pouvez également trouver ici est la présence de dauphins. Mais malheureusement, autour de la baie de Saleh, il n'y a pas d'hôtel ou d'auberge où vous pouvez rester pendant que vous êtes à la baie de Saleh. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez y rester car vous pouvez installer une tente sur la plage. En installant une tente, vous pouvez être plus familière avec l'atmosphère de la baie de Saleh. Même si le temps est favorable, vous pourrez profiter des belles étoiles qui brillent sur la plage. Bon, chers auditeurs, voilà la beauté de la baie de Saleh sur l'île de Sumbawa.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id.
Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voici l'Indonésie en couleur et cette édition parle de Pindad et Hejo Techno présente le destructeur de déchets sans fumée. PT Pindad, qui est une entreprise d'État, et PT Top Techno Indo ou Hejo Techno ont développé un outil de destructeur de déchets avec une technologie d'incinérateur sans fumée. Le produit s'appelle Stunta X Pindad. Le directeur commercial des produits industriels de PT Pindad, Harry Harriswan, dans sa déclaration du vendredi le 4 septembre 2020, cité par Tempo.co, a déclaré que Stunta X Pindad faisait partie d'une solution innovante pour une gestion des déchets respectueuse de l'environnement. Son parti soutient pleinement le travail des enfants indonésiens et est prêt à produire ensemble le plus rapidement possible pour l'environnement. Ce produit se veut un transformateur de résidus de déchets, à savoir les résidus de sélection de déchets qui ne peuvent pas être réutilisés. On prétend que le Stunta est un incinérateur respectueux de l'environnement qui ne produit pas de fumée ni d'autres substances nocives car il a réussi la combustion à double brûleur, les filtres et le traitement des fumées. On prétend que le système de réchaud est efficace dans l'utilisation de combustible. Il peut brûler des ordures en continu car il n'utilise pas le système d'ouverture de la porte de la chambre de combustion comme les autres produits d'incinérateur. La température de combustion de Stunta varie de 800 à 1200 degrés Celsius, ce qui peut détruire tous les types de déchets secs et humides. La combustion résultante reste 5% du volume initial de déchets. Stunta a également un design compact de petite taille et facile à déplacer car il dispose d'une source d'énergie indépendante. Stunta X Pindad a été inauguré par le gouverneur de Java de l'Ouest, Ridwan Kamil, au bâtiment d'État de Pakuan, jeudi le 3 septembre 2020. Selon le gouverneur Ridwan Kamil, ce produit dispose déjà d'un certificat écologique et collabore avec Pindad afin qu'il puisse gérer environ 2 tonnes de déchets par jour. Ridwan Kamil a déclaré qu'il pourrait utiliser Stunta à la fin du processus de tri et de traitement de déchets, en particulier pour traiter les déchets qui n'ont plus de valeur économique. Voilà l'Indonésie en couleur.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru.
berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jauh aku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Good. tak lagi sendiri melawan luka yang dalam. Karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita. Ku terikat, ku terpikat. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya. Ku telah terikat, ku telah terikat.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Bukan diriku tak tahu kau ada yang punya. Namun apa daya bila hati berbicara. Bila kau masih miliknya, ku tak mengapa. Cari cara tuh kau tinggalkan dia. Ku yakin kau tercipta hanya untuk diriku. Ku pastikan dapatkan kamu.
Buat kamu
jadi milikku. Kasih.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.